Voilà, alors je vous pose cette question. Est-ce que vous avez encore envie d'être un chrétien contagieux? Est-ce que vous l'avez envie vraiment? Moi, j'ai envie, parce que si je suis un chrétien contagieux, je vais pas. Et beaucoup d'efforts que je faisais pour attirer les gens, je vais pas pouvoir les faire parce que les gens vont venir. Les gens vont venir d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça qui est intéressant d'être un chrétien contagieux, c'est prendre conscience que quand on a cette contagion, eh bien, Dieu envoie les âmes. Et puis, comme Dieu aime les chrétiens contagieux, il envoie des âmes, il envoie, il envoie, il envoie. Je vous dis, je l'ai expérimenté cette semaine, suite à un week-end où on a laissé nos cœurs travailler par le Saint-Esprit, on a reconsacré nos cœurs. Hein, j'ai même pris conscience de guérison personnelle qui devait s'opérer dans ma vie. Et j'ai peut-être cette semaine eu plus d'occasions de témoigner que je n'en ai eu en un mois ou 2 mois. Dieu envoie les âmes. Quand on est perméable comme ça. Hein. Alors, on avait vu la première fois, surtout le pourquoi être un chrétien contagieux. Hein. Bon, je fais un rappel très succinct, hein, parce qu'on a souligné parce que pour Dieu, chaque personne compte. Vous vous souvenez, hein? Chaque personne compte. Donc, alors, il veut qu'on soit un chrétien contagieux comme un microbe qui se répand. Hein? Parce que pour que toutes les personnes, le plus grand nombre, soient touchées, contaminées par cette bonne maladie. Voilà. Et on avait tiré 2 leçons, hein, du domaine scientifique. On avait pris conscience que cette Terre, cette petite boule, toute petite boule au milieu d'un tas d'autres boules, est le centre de l'univers. Et qu'il suffirait que cette Terre soit décalée légèrement ou va à une vitesse légèrement différente pour qu'on puisse pas survivre. C'est magnifique. On avait tiré une leçon du monde des affaires. Bon, je donne pas les détails là-dessus. On avait souligné l'enseignement de Jésus, tous les efforts qu'il déploie pour aller chercher la brebis perdue. Une brebis perdue. Voilà, on a vu tout ça et on a vu les récompenses aussi d'un christianisme contagieux. Quelle récompense on a? On a la motivation, on a la plénitude. C'est gratifiant de voir quand le message communique. C'est gratifiant. La croissance spirituelle. L'assurance spirituelle. Et on a des investissements durables. Ce qu'on investit pour le royaume de Dieu, on amène des gens dans l'éternité. C'est très gratifiant aussi. Et on avait dit en conclusion, on a tous à y gagner. On y gagne, nous. Les autres y gagnent. Et Dieu y gagne. Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Je ne sais pas combien de messages je donnerai là-dessus, mais au moins 3. Donc au moins celui-ci, puis au moins un autre. Après, je verrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Hein. Mais là, c'est plus dans le comment maintenant, après le pourquoi. Hein. Le comment. Et puis je vais introduire simplement. Il n'y a personne qui a parole vivante là, peut-être. Parole vivante, non, il n'y a pas. Sinon, je vais prendre ma Bible, c'est pas grave. Version seconde, oui. La Semeur. Ah oui, la Semeur, c'est pas mal, ouais. Je vais peut-être prendre celle-là, ouais. Donc je vais lire Matthieu. Hein, c'est un texte qu'on a vu d'ailleurs dans le groupe de maison à Wavrin. C'est Matthieu 5. Matthieu 5. Et on prendra un temps de prière après, j'y tiens vraiment, hein, pour permettre au Saint-Esprit de digérer et d'appliquer tout ce qu'on entend. Hein. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi l'assalera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est plus bon qu'être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au renard, au regard, pardon, au renard, au regard. Je lisais un cantique des cantiques où il était question de renard, c'est pour ça. Voilà. Soyez remplis d'un fou rire qui vous guérit, comme l'a dit Christine. Voilà. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Voyez ? Le chrétien contagieux, c'est le chrétien qui attrape les propriétés de la lumière et du sel. Voilà. La lumière, ben, je crois que par sa vie, il éclaire les gens. Il éclaire sur la réalité spirituelle. Il éclaire notamment sur la façon dont Dieu regarde les hommes. Le sel, il donne du goût. Par sa paix, sa joie. Il donne du goût, il donne du piment à ceux qui les entourent, le chrétien contagieux. Il freine la corruption aussi. Hein. Vous savez que le sel, hein, on le mettait sur les aliments pour conserver. Hein. Donc, il freine le déclin moral. Nous freinons le déclin moral de l'humanité. Vous le savez ? On freine le déclin moral. Donc, mais attention, Jésus nous dit, il ne faut pas que le sel perde sa saveur. Ça veut dire, il ne faut pas que le chrétien perde sa vigueur. Ah, alors qu'est-ce qui donne la vigueur aux chrétiens ? Oui, certainement, bien sûr. Oui, oui. Oui. Oui.
On parle de contagion, moi ça me renvoie à ma profession en infirmière. Pourquoi les gens ne viennent pas plus à la lumière? Parce que le péché, c'est une plaie à vif. Tu mets du sel dessus, ça va décaper, hein, et ça marche très bien. J'ai mis du sucre sur certaines plaies pour que ça marche. Parce que le sel est trop bon.
Donc la parole de Dieu, c'est clair. Je crois qu'il n'y a pas de raccourci. On a besoin d'être en communion avec cette parole profonde. Ça, vous le savez. Mais encore faut-il se dire, mais quel est mon rapport avec la parole? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de la parole quand elle me parle? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc là, on aborde peut-être le point que j'aimerais souligner. J'aimerais souligner deux points ce matin. Ce qui caractérise le chrétien contagieux, l'attrait de l'authenticité et le pouvoir de la compassion. Voilà. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces deux points. D'accord ? Et on priera ensuite par rapport à ces deux points. On priera parce que ça va soulever des choses. Ça va peut-être... ça va peut-être bousculer un petit peu, ça bouscule, hein, la parole de Dieu nous bouscule toujours. Alors l'attrait de l'authenticité, ben, vous prenez un Jean, un chapitre, le premier chapitre, à partir du verset 5, qu'est-ce qui est dit dans ce passage? Peut-être Monique si tu veux le lire. Hein. Un Jean 1, verset 5, ben, c'est l'appel à marcher dans la lumière. Bon. Oui. Voilà. Oui, tu peux même continuer encore un peu. Ouais.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres et nous ne pratiquons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion.
Oui. Voilà, ce texte a quelque chose à voir avec l'authenticité. J'aime à dire souvent que le Seigneur ne peut guérir que ce qui vient à la lumière. Et quelquefois, ben, on cache. On ne met pas les choses à la lumière et on empêche le Seigneur de guérir. D'accord ? Alors dans Éphésiens 5, 9, je vais juste le mentionner, il est dit « Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Vérité. Et je souligne un troisième passage aussi dans Romains 12, 9, qui dit que l'amour soit sans hypocrisie, bien sûr. Et dans Jacques 3, 17, il est dit « La sagesse d'en haut, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie aussi. D'accord ? Alors l'authenticité, on va dégager 4 points sur cette caractéristique. Qu'est-ce que c'est qu'être authentique ? C'est quoi être authentique ? Premier point, c'est être simplement soi-même. Ouais. C'est pas être quelqu'un d'autre. C'est pas jouer à être quelqu'un d'autre. C'est être soi-même. Certains pensent qu'en devenant chrétien, ils doivent abandonner leur personnalité. On peut penser ça. Peut-être qu'on a enseigné quelquefois dans cette direction-là. Ils doivent renoncer à leur personnalité. Quelle erreur, hein ? Quelle erreur, non ? Cessons de nous excuser pour la personnalité que Dieu nous a donnée. Ne nous tentons pas de nous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Le corps du Christ est fait de personnes différentes, avec leur personnalité, leur caractère, leurs dons. Dieu nous a donné un tempérament unique. Il veut faire avec, nous employer avec. Avec un point de force, souvent on a un point de force dans le tempérament. Pour certains, ça va être la bonté ou l'altruisme. Quelqu'un d'autre la créativité, quelqu'un d'autre la rigueur, quelqu'un d'autre la douceur, quelqu'un d'autre le côté fonceur, un autre la sagesse, le calme. Voilà. Bah, Dieu veut employer notre personnalité avec ce point dominant, mais aussi avec les points de faiblesse. Tant pis. Et on doit savoir apporter nos points de faiblesse. Parce que tout tempérament et tout caractère a des points de faiblesse, bien entendu. Mais il faut compter que Dieu veille sur nos points de faiblesse pour qu'elles ne soient pas une occasion de chute. Donc ne réfrénons pas notre tempérament, mais déposons-le au pied de la croix, afin qu'il le sanctifie. Je vais vous donner un exemple, tout simple. Moi, on me dit, Jean-Luc, souvent, t'es trop bon. Hein, tu fais trop confiance, tu vas te faire avoir. Bon, c'est mon tempérament, et ça comporte des points de faiblesse. Un manque de discernement, quelquefois. Mais je peux entendre cela d'une façon à endurcir mon cœur et à dire, bon, je vais réfréner ma bonté, hein, et mon amour. Je vais réfréner cela parce que, de toute façon, je vais me faire toujours avoir. Et donc, je vais endurcir mon cœur. Peut-être être désiré de quelqu'un d'autre. Ouais. Et quelle erreur ! Parce que si Dieu m'a fait avec ce tempérament, c'est qu'il veut me bénir et bénir d'autres avec ce tempérament. Mais par contre, bien sûr, je dois déposer mes points de faiblesse. Seigneur, fais attention à mes points de faiblesse. Mais je ne vais pas endurcir mon cœur. Je ne vais pas réfréner ma personnalité. Je suis invité à rester moi-même. Et à m'en remettre à Dieu pour mes points de faiblesse. Enfin, je le crois. Je crois que c'est ça. Hein, je crois. Chacun, nous sommes une créature merveilleuse. Pour Dieu, chacun. Donc, être soi-même, ça c'est la marque de l'authenticité. Bon. Un autre point dans ce point de l'authenticité, être vrai intérieurement, dans notre vulnérabilité, ne pas nier les réalités émotionnelles quotidiennes. Ceux qui sont en recherche à côté de nous ont besoin de nous voir nous débattre dans nos peurs, dans nos craintes, dans notre colère, notre désarroi, quelquefois notre frustration, et de nous entendre en parler quelquefois ouvertement et d'observer notre foi à l'œuvre dans ces combats. Moi, j'étais très souvent encouragé par des gens qui étaient vrais. Et vous savez, quand on entend des prédicateurs qui citent leur combat et rient d'eux-mêmes, vous voyez toute l'assemblée rire. Mais rire, pourquoi les gens rient? Ça leur fait du bien. Et moi, ça me fait du bien d'entendre un prédicateur qui rit de sa peur, qui parle de sa peur et puis de ses réactions quelquefois. Et ça fait un bien immense. Ça nous donne un autre regard sur notre combat. Ça nous évite de dramatiser et de se faire une montagne de notre défaut, de notre point de faiblesse. Vous comprenez? Moi, il y a, ces derniers temps, le Seigneur m'a dit, Jean-Luc, ris un peu de tes distractions, parce qu'à un moment, elle me faisait peur, franchement. Et plus je commençais à en avoir peur, plus je me rendais compte que j'étais sur un mauvais registre, là. Ça n'allait pas, ça. Non, je vais en rire. Je vais en rire, je décide d'en rire. Quand je pars en train, puis que, quand je pars en voiture et que je reviens en train, et que je laisse ma voiture, ben j'en ris. Voilà, j'en ris. Et je vois la main de Dieu qui me garde. Parce que heureusement, je suis plus souvent distrait dans des choses personnelles à moi que dans des choses professionnelles. Heureusement. Hein, je suis davantage distrait dans les choses personnelles. Le Seigneur me donne d'être un peu moins distrait pour ce qui est du professionnel. Parce que là, ça me poserait des problèmes. Et je crois que quand on est vrai intérieurement, eh bien, notre vie parle de la grâce de Dieu. Elle parle de la grâce de Dieu qui nous aime tel qu'on est. Ah, lui, il peut rire de lui. Il peut s'aimer avec ses défauts, donc moi aussi, je peux m'aimer aussi. Je peux rire de moi-même. Ah, la grâce de Dieu. Voilà. Être vrai intérieurement. Troisième point. Ah, celui-là, on n'aime pas trop. Admettre franchement nos échecs. Oh, ah, les Français, on n'aime pas avoir... On aime bien avoir raison. Et là, j'ai lu un témoignage, c'est dommage, je l'ai oublié. Bon, je vais essayer de m'en rappeler, mais bon. Puis je dirai mon propre témoignage aussi après. C'était un homme non chrétien qui était touché par une confession franche de son employé qui lui a dit « Patron, je suis désolé, mais avant de devenir chrétien, je vous ai volé, je me suis un peu servi dans, pas en argent, mais enfin en objet, quoi. Donc je tiens à vous demander pardon maintenant. » Et ce patron était tellement subjugué que ça a été un élément qui l'a conduit à la foi. Une confession franche est un puissant témoignage de la puissance transformatrice de Dieu dans nos vies. Quelqu'un écrit ceci, elle va totalement à l'encontre de notre culture, dans laquelle personne n'admet ses torts. À notre époque, nous excusons nos défauts, nous couvrons nos bavures et engageons des avocats renommés pour nous tirer d'affaire. Bien peu admettent leur culpabilité. Alors, où en sommes-nous? Admettons-nous, quand est-ce la dernière fois qu'on a dit qu'on a eu tort? Attention, pas la dernière fois quand on a dit devant tout le monde « je suis un pécheur, j'ai des torts de temps en temps ». Non, quand précisément, sur quelque chose de précis, nous avons dit « ah oui, là je me suis trompé, pardonne-moi, j'ai fait une erreur ». Et dans notre lieu de travail, c'est un témoignage puissant. Les gens réalisent que quelqu'un qui admet ses torts aujourd'hui, il faut vraiment qu'il soit sous l'effet de l'influence de Dieu. Ouais. Admettre ses torts. Ou est-ce que nous nous acharnons à présenter une image d'infaillibilité à ceux qui nous entourent, affolés à l'idée que s'ils savaient qu'on était imparfait, on serait perdu. Tout serait perdu. Non, c'est pas vrai. Ne sous-estimons pas la puissance d'excuses sincères. Les gens réaliseront que seule l'influence de Dieu peut pousser quelqu'un à dire « c'est de ma faute, je suis désolé ». Les gens qui s'intéressent au christianisme ne s'attendent pas à voir des gens parfaits. Ils ne sont pas naïfs à ce point-là. Mais ils espèrent trouver des gens qui ont le courage d'avouer leurs erreurs et de rectifier le tir. Ah, est-ce que nous pouvons donner ce témoignage? Je vous assure, si on peut donner ce témoignage sur notre lieu de travail, on va devenir un chrétien contagieux. Et je crois que ça désarçonne l'ennemi aussi. Je me souviens avoir quelquefois désarçonné mon directeur en procédant comme ça. Bon, il était désarçonné, je ne sais plus. Ouais. Bon, quelqu'un essaye de nous piéger, mais on va au-devant, déjà. En s'excusant pour nos erreurs. On désarçonne. l'ennemi qui avait peut-être envie de nous attaquer, de nous faire plonger. Hein. J'ai jamais regretté personnellement d'avoir avoué mes erreurs ou mes fautes, et j'ai jamais senti que cela m'éloignait des autres. Au contraire, j'ai toujours eu le sentiment d'en sortir grandi. Mais il m'arrive encore quelquefois d'avoir des craintes de faire des aveux, hein, je reconnais. Alors, être soi-même, être vrai intérieurement, admettre ses torts, mais aussi vivre selon nos convictions, partager nos convictions. Beaucoup de chrétiens craignent d'être mis à l'écart s'ils montrent clairement leurs convictions. C'est pas toujours vrai. C'est quelquefois vrai, mais pas toujours. Certains qui sont en recherche, que Dieu cherche, au contraire, sont admiratifs de ceux qui prennent position, qui ont le courage de leurs convictions. Sur des points de société, par exemple, qui expriment leur point de vue, par exemple, sur l'avortement ou sur l'homosexualité ou je ne sais quoi, ou sur le fait de leur foi en Jésus, fils de Dieu, seul sauveur, aujourd'hui, ça passe pour être intolérant. C'est vrai qu'il y a une forte séduction avec le syncrétisme, tu en parlais tout à l'heure, mais il y a une forte séduction là, il ne faut vraiment pas se laisser avoir là. On a un Jésus unique, hein. Il est unique notre Jésus là. Il ne supporte pas la comparaison avec Bouddha et Mahomet, enfin, c'est un... il ne supporte pas. Donc avoir le courage de nos convictions. Ah, il m'arrive quelquefois d'avoir peur, hein, de prendre position. D'ailleurs, le Seigneur m'a montré un besoin de guérison de crainte ces derniers temps. Voilà, il m'a montré ça. Mais c'est pas bon, vraiment. Je ne veux pas être sous la crainte. Non. Partager nos convictions. On veut être des chrétiens contagieux, alors soyons... francs les uns avec les autres, hein? Restons nous-mêmes, ni plus ni moins comme le Seigneur nous a créés, exprimons honnêtement nos émotions, hein, et nos réactions face aux circonstances de la vie, reconnaissons humblement nos erreurs lorsque nous en commettons et défendons courageusement ce que nous croyons, proclamons la parole et mettons-la en pratique. Voilà, premier point, première caractéristique. Et on va prier tout à l'heure à ce sujet, d'accord, hein? Deuxièmement, après l'attrait de l'authenticité, on va revoir tout ça d'ailleurs sur transparent après, comme ça vous le verrez, le pouvoir de la compassion. Alors là, je cite deux versets, Jean 13, versets 34 et 35, ça vaut le coup que quelqu'un le lit, parce que c'est vraiment une parole de référence, là, hein. Alors Jean 13, 34, 35, ouais. Christine, vas-y. Ah, le pouvoir, la compassion. Hein. Tous sauront que vous êtes mes disciples. Vous avez de l'amour les uns pour les autres et pas seulement pour les chrétiens. Hein. Parce qu'on va parler de la compassion vis-à-vis de gens en détresse. Et bien sûr, 1 Corinthiens 13, ça Monique, c'est ton verset préféré, je crois. Verset 3, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Je peux avoir toute la connaissance, je peux avoir un discernement aiguisé, avoir un esprit prophétique, mais si je n'ai pas l'amour, si l'amour n'est pas derrière dans tout ce que je fais, cela ne me sert à rien. Ou je ne suis rien, d'autres traductions disent. D'accord? Alors c'est Bill Hybels dans son livre qui dit, dans son livre justement « Comment devenir un chrétien contagieux », il dit ceci, « L'absence de compassion accompagnée d'actes pratiques est le signe infaillible qu'il manque de la profondeur spirituelle. Le christianisme indifférent n'attire pas les personnes en recherche. Le christianisme indifférent n'attire pas les personnes en recherche. Les actes par contre de miséricorde ouvre le cœur des gens, comme rien d'autre ne le peut. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, d'accord? Ces derniers temps, combien de fois avons-nous éprouvé de la compassion pour quelqu'un en difficulté? Ces derniers temps, y avons-nous donné suite à nos sentiments? et aider les autres en les dépannant, en les encourageant, en leur rendant visite, en leur exprimant notre amour de façon tangible. Et Bill Hedels parle d'une échelle, d'une échelle de 1 à 10, quoi. Allez, si votre échelle, dans votre échelle de compassion, vous sentez où? Bon, dites-le pour vous-même, chacun. Entre 1 et 10. Ah, si vous êtes en dessous de 5, allez, le Seigneur va, va vous encourager, va essayer de vous de relever ça. Hein? Peut-être on se sent gêné, peut-être il y a de la honte, parce que on sent qu'on peut en avoir beaucoup plus. Alors simplement, voilà, le Seigneur nous met au défi d'essayer de grimper dans notre échelle. Et que le pouvoir de compassion soit libéré davantage dans notre vie. Et on va voir comment, un peu. On va voir que faut faire attention à certaines choses. Et que si on fait vraiment attention à ces choses, on peut relever ce niveau de la compassion dans notre vie. Alors une première remarque s'impose, c'est de savoir que on n'est pas forcément tous égaux au départ à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un contexte qui est différent pour chacun. Et certains parmi nous ont été, élevés dans un cadre d'amour. Et c'est très très avantageux, faut le reconnaître. Hein, où il y avait l'amour, où il y avait les rires, où il y avait les soins, où il y avait l'acceptation. Et là, ce qui nous reste à faire là, dans ces cas-là, et je vous inviterai à le faire tout à l'heure, c'est de rendre grâce à Dieu pour ça. De rendre grâce à Dieu si on vient d'un cadre aimant. Mais tous n'ont pas là cette chance. Et certains peuvent dire, peuvent témoigner quelquefois, je ne sais pas ce que c'est que la tendresse, jamais mes parents ou ma famille m'a exprimé le moindre mot d'encouragement, le moindre geste de tendresse, ou le moindre intérêt. On a eu, je ne sais plus, c'était à la télévision, là, c'était Gérard Lenormand qui a écrit un livre qui a dit que pour sa mère, il a toujours été méprisé par sa mère. C'est quand même un handicap au départ. Hein. Donc il faut tenir compte du contexte. Et savoir si on est dans un contexte difficile, on vient d'un contexte difficile, savoir en parler, moi je crois là aussi, il y a des gens qui peuvent conserver des douleurs secrètes, mais ça fait du mal, après ça ronge de l'intérieur, il faut savoir en parler. À des chrétiens de confiance, dans un cœur à cœur avec Dieu aussi, et demander au Saint-Esprit de visiter, bien entendu. Hein. Alors on comprend,
moi je comprends un petit peu, vous savez, des phénomènes, on expliquait Toronto, qu'est-ce que c'est que ces phénomènes, où des gens tombent dans le repos de l'esprit, ou tombent dans le rire, tiens, tu as parlé du rire,
dans le rire, mais parce qu'il y a une œuvre de guérison, dans des rires que Dieu donne, il y a une œuvre de guérison dans des repos de l'esprit, dimanche dernier on était à Armentières, ou le dimanche matin après le message, beaucoup de gens se sont avancés et plein de gens sont tombés dans le repos de l'esprit. Comment on pourrait dire ça? C'est comme un câlin d'amour avec le Père, on pourrait dire. On a besoin de ce câlin d'amour avec le Père, comme si le Père vous prenait dans ses bras et venait toucher nos entrailles et venait guérir nos souvenirs émotionnels. Dans le rire, je me souviens d'un témoignage de Robert Reeve, que c'est une référence pour vous tous, donc c'est pour ça que je me dis, ben, Robert Reeve, une période, il a expérimenté le rire dans l'esprit, eh ben, c'était très utile, parce que dans une période où il y avait des factures comme ça, terribles, avec le château blanc, c'était un truc pas possible, qui aurait pu le mettre dans l'angoisse et dans l'inquiétude, et il se souvient d'une soirée où il était tombé dans le rire dans l'esprit, où toute crainte et toute angoisse étaient tombées, littéralement. Et ça le faisait rire. C'est comme si Dieu lui disait, mais je m'occupe de ton château, t'inquiète pas. Je m'occupe de tes factures. Donc, la compassion, il faut tenir compte du contexte. Dans un contexte difficile, on peut comprendre. On a donc besoin d'apporter ces événements douloureux au Seigneur. Alors maintenant, j'aimerais... Oui, je cite quand même cet exemple. Un homme d'affaires confié récemment Ces 5 dernières années, un climat épouvantable s'est installé dans nos lieux de travail, pour vous dire que le contexte, il passe forcément lié au passé, mais au présent, dans des conditions de travail vécues. Hein? Un climat épouvantable s'est installé dans nos lieux de travail, et aujourd'hui, pour garder mon travail, il faut que je laisse mon cœur au vestiaire. La réalité, parfois. Pour garder mon travail, il faut que je laisse mon cœur au vestiaire. Ne cédez jamais à une telle pression. On ne vous oblige pas à laisser votre cœur au vestiaire. Et le problème, confiait cet homme, c'est que souvent, j'oublie de le récupérer en rentrant à la maison. Alors, vous voyez, on peut comprendre pourquoi certains ont un taux de compassion très bas. Alors, dans certains cas, on peut comprendre que le chrétien peut se trouver devant une décision à prendre, peut-être. De refuser un poste ou de, je ne sais pas, il peut y avoir des décisions à prendre, quelquefois. Alors, deux choses auxquelles nous devons faire attention pour garder ce quotient de compassion dans nos vies. Un, attention à notre manière de vivre. Nous pouvons tomber bien bas dans notre niveau de compassion parce que nous n'avons pas un bon rythme de vie et que nous sommes le plus souvent en état de crise et en état de crise permanente. Parce qu'on est sous une cadence infernale ou sous un stress. Hein, c'est lié parfois à la quantité de travail ou c'est lié, s'il n'y a pas la quantité, à un stress intérieur qui nous rend ensuite imperméable à la compassion. C'est Bill Idol qui cite cela dans son livre, hein, et qui l'enseigne ça à son église. Nous devons faire attention à notre manière de vivre. Et à ne pas nous trouver constamment en situation de crise qui fait que on perçoit quelqu'un qui est en difficulté, mais on se convainc qu'on n'a pas tant de gaspiller pour ça. On est plutôt préoccupé à savoir comment on va joindre les deux bouts, comment on va terminer notre travail. Et les peu de temps libre que l'on a, on va se tracasser à ça. Comment je vais faire pour terminer mon travail? Et petit à petit, on devient perméable à la souffrance de gens qui sont autour de nous. Je demande souvent le matin au Seigneur. Je suis un poste d'accueil et je vois mille et mille occasions de réconforter, d'encourager, de manifester de la compassion. Mais quelquefois, je suis dans le stress de mon travail. Donc je demande, Seigneur, libère-moi du stress. Et libère-moi de cette crainte du travail inachevé. Ben voilà, si je n'ai pas fini, on terminera le lendemain, puis voilà, puis c'est tout. Donne-moi de profiter pleinement des pauses, pour que dans ma pause, je ne suis pas encore en train de travailler dans la tête. Ou quand je rentre à la maison, je suis encore en train. Ou quand je suis dans le train, dans le métro, où ça peut être une occasion de manifester la compassion. Je ne suis pas encore ma tête au travail. Et ma tête est dans mon stress intérieur. Donc attention à la manière de vivre. Et les serviteurs de Dieu, qu'ils soient pasteurs ou prêtres, hein, ou diacres ou chrétiens engagés, ne sont pas à l'abri non plus de cette mauvaise manière de vivre. Cette cadence infernale qui peut les rendre aveugles. On peut se demander si dans l'histoire de Jésus qu'il a raconté, le bon samaritain, vous savez, cet homme qui était blessé sur la route, et puis un lévite passe et un prêtre passe, on peut se demander si, ils l'ont bien vu et se sont dit, oh là là, il est blessé, mais j'ai 6 réunions ce soir, ça va pas aller, donc il faut que je me dépêche. Ouais. Peut-être. Peut-être, ouais. Ouais. Un homme blessé, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et les gens qui vivent en permanence en état de crise ne manifestent généralement que peu de compassion parce qu'ils en ont assez pour survivre dans leur marathon, hein, hebdomadaire. Alors sentons-nous pour nous-mêmes ce danger? Est-ce que nous le sentons pour nous-mêmes, ce danger de situation de crise qui peut nous faire perdre la compassion, hein? On va prier pour ça tout à l'heure aussi. Hein, si ça nous parle, soyons prêts à prendre des décisions. On ne sait pas lesquelles peut-être. On ne sait pas comment. Ben, on dit ça au Seigneur. Seigneur, interviens. Et puis faisons confiance qu'il nous donnera une issue. Hein, peut-être qu'il y aura quelque chose à alléger dans nos activités, mais peut-être aussi c'est une histoire dans ma tête aussi. On peut quelquefois être enfermé dans un perfectionnisme qui fait que nous ne nous permettons pas de souffler. Ça peut arriver, hein. Et que nous avons besoin de changer, apprendre à changer de registre, de savoir quitter la sphère du travail. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et quand on peut se détendre, et puis, et qu'on a pu être sensible à une détresse, combien c'est gratifiant de voir la personne soulagée. Il n'y a pas longtemps, bon, vous savez, les calendriers perles et précieuses, il y en a qui ont commandé ce calendrier. Hein. Ah. Alors, utilisez-le pour vous-même. Mais quelquefois, il y a une parole clinquante, là. La parole de la veille, ben, vous l'avez lue, c'est là la veille. Prenez-la avec vous, mettez-la dans votre poche. J'ai fait ça l'autre jour, je dis, Seigneur, allez, cette parole, ce feuillet, je le prends. Et je vais bien le donner à quelqu'un aujourd'hui. Et j'y pensais plus que j'avais ce calendrier, d'ailleurs. Et on était à une demi-heure de la fin de la journée. Je ne pensais plus du tout que j'avais un feuillet. Puis d'un seul coup, je vois une maman qui, son fils a été renvoyé, il n'était plus dans l'école, elle revenait mettre en règle sa comptabilité, chercher un bleu de travail pour son fils. Et elle partageait avec la comptable à côté de moi, en disant, écoutez, vraiment, je suis dépassé par mon fils, je ne sais pas quoi faire, enfin vraiment, je ne sais pas, je suis honteux quand je suis devant les parents. Enfin vraiment, elle disait toute sa honte, elle disait toute sa détresse. Et puis, bon, j'écoutais la conversation, je me suis dit, mais Jean-Luc, tu as peut-être quelque chose à dire. Puis j'ai dit à cette dame, pas grand-chose. J'ai dit, ben, vous savez, madame, il faut toujours croire en un déclic, il peut y avoir un déclic. Je dis, tenez, voilà, j'ai ce petit feuillet, je vous le donne. Oh, elle l'a lu. Et elle a dit, oh, j'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Plusieurs occasions peuvent se présenter comme ça dans une journée. Alors attention à ne pas être constamment en situation de crise pour plus avoir le temps d'être là pour ces personnes. Alors, ça, ce dont je viens de parler, je crois que ça peut concerner beaucoup de personnes. Là, ce que je dis là maintenant concerne, ce que je vais dire, concerne moins de personnes, à mon avis. Attention à notre manière de vivre, attention à notre manière de donner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que parfois, on peut être une personne extrêmement sensible. Alors, on capte la grâce de Dieu, on est tellement enthousiasmé par la grâce de Dieu, et on capte la souffrance, qu'on va essayer de soulager toutes les personnes qu'on rencontre en détresse. Toutes. On est zélé, on est enthousiasmé, parce qu'on est une personne extrêmement sensible. Et il y a quelques personnes comme ça qui, petit à petit, se sont épuisées. Elles se sont épuisées, elles ont commencé à mettre un peu moins de cœur. Puis alors, d'autant plus si il n'y avait pas de retour, bon, c'est vrai qu'on ne va pas faire les choses pour le retour, hein, premièrement, ça c'est vrai. Mais bon, ces personnes en plus peut-être ont été blessées par un manque de retour, un manque de reconnaissance de la part des autres, et même peut-être parfois du mépris. Parfois on peut récolter du mépris, hein, pour l'aide qu'on veut apporter. Et puis y avoir une blessure dans le cœur. Hein, il peut avoir vraiment une blessure dans le cœur qui peut fermer la personne ensuite à toute compassion. Et c'est quelqu'un qui peut passer de la comment dire enfin de j'arrive pas à trouver le mot ouais mais d'une comment dire d'une direction de vie qui peut être allez ma chemise d'abord, je donne ma chemise d'abord. À l'inverse, c'est-à-dire, bon, maintenant, moi d'abord, ensuite les autres. Je vois des personnes dans mon travail, je connais une personne extrêmement sensible comme ça, et puis actuellement, elle est en train de dire, maintenant je m'occupe de moi d'abord, c'est fini. Ouais. Vous voyez, on est tombé dans l'autre extrême. Où le bas blesse pour cette personne, pour ce genre de personne? Parce qu'ils n'ont pas compris que si je dois exercer la compassion, je dois veiller sur moi-même quand même aussi. Je dois veiller sur moi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Aimez les autres comme on s'aime soi-même. Donc je dois quand même veiller un peu sur moi. Je dois savoir trouver des temps de récupération. Des temps où j'allonge mes jambes, où je m'allonge, où temps je ris un peu, temps je, des temps où je fais un peu autre chose. Pour vraiment récupérer, on est appelé à veiller sur soi-même, d'accord ? Hein, pour refaire le plein, en quelque sorte. Et pour éviter donc qu'on s'épuise, éviter qu'on soit blessé, et qu'on on se ferme aussi à la compassion qu'on doit apporter. D'accord ? Donc attention à notre manière de donner. Et vous savez, attention, il y a des gens autour de nous qui peuvent nous pomper. Et moi j'apprends dans mon ministère à faire attention aux gens qui pompent. Et tu donnes, on n'en a pas assez, on n'en a pas assez. Et puis en fait, on est dans un registre affectif. Hein? Donc attention. Attention à notre manière de donner. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je me suis dit, j'avais envie au départ de traiter quatre points. Je me suis dit, c'est trop. Deux, ça suffit. L'authenticité, l'attrait de l'authenticité, le pouvoir, la compassion. On prendra tout un temps, la fois prochaine, et ce que j'ai entendu hier à une pastorale me confirme dans ce sens. On parlera quand même d'être une semence de sacrifice, de l'esprit de sacrifice. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. J'ai entendu un message hier, ça m'a conforté, parce que j'avais l'intention de traiter ce point la prochaine fois, ça me conforte dans ce sens. J'étais surpris, par exemple, d'avoir entendu cette interprétation, mais je crois que c'est pas faux. Quand Étienne est mort, il a été lapidé, vous vous souvenez de ça, hein? Plein de chrétiens ont dû dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est le meilleur d'entre nous, et tu l'enlèves. Et on n'a pas pensé que cet Étienne, c'était vraiment le meilleur. Enfin, c'était le meilleur, en tout cas. C'était. Vous savez qu'il a même, avant d'expirer, il a dit, Étienne, pardonne-leur. C'était presque comme le Christ. Et qui l'a entendu? Un certain Saul l'a entendu, le persécuteur. Et ce prédicateur hier disait, est-ce que ce n'est pas cette semence de sacrifice qui a donné Paul? Alors à vue humaine, on se dit, le Seigneur, il se plante, il fait n'importe quoi, il enlève les meilleurs. Mais la semence d'Étienne et la semence de sacrifice a donné Paul. On parlera de tout ça la fois prochaine, d'accord ? Hein ? Alors ce que je vous invite maintenant, c'est à fermer les yeux, on va prendre vraiment un temps de prière. Je crois, hein, on croit que le Saint-Esprit est là pour vraiment... Alors Jacques, j'avais dit que tu ne mettes pas le premier parce qu'au début il y a un bruit d'eau, mais finalement, vas-y, fais-le. Parce que le bruit d'eau, ça nous fait penser dans ce CD à un torrent qui vient. Le torrent, la fraîcheur du Saint-Esprit qui vient nous rafraîchir dans ces domaines de l'authenticité, de la compassion. D'accord ? On va demander vraiment au Saint-Esprit de nous rafraîchir dans ces domaines, de nous rendre plus authentiques et plus compatissants. Vous êtes d'accord ? Voilà, alors on va se mettre dans un temps de prière.